cours de philosophie du vivant par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 4 février 1993.
demande vitale. Il y a des similitudes très grandes, et cependant, la vie implique un rythme tout à fait nouveau. Je vous disais la dernière fois, il y a le repos. Le vivant se repose. Il a besoin de se reposer. Il y a un rythme. Il y a des assimilations et des repos. Alors que le monde physique est un monde de pure relativité et de mouvement constant. Il n'y a pas de repos dans le monde physique. Et ceci grâce à l'immanence du vivant. Et grâce à l'immanence du vivant, on peut parler alors d'une intentionnalité vitale. Le vivant a ceci de tout à fait particulier, de qualitatif, qui peut dépasser le domaine d'extériorité quantitative et arriver à l'immanence vitale qui est qualitative. Alors, la distance qui existe entre l'intentionnalité, entre cette espèce, ce mode vital et le monde physique, on dira intentionnalité. Donc, on met ce mot. On a inventé ce mot. Au point de vue philosophique. Il ne faut pas oublier que le père d'Aristote était médecin. Et que toute la philosophie de la vie a été très dépendante de tout le domaine médical, de l'art médical et de la science médicale, mais surtout de l'art médical. Au temps d'Aristote, c'est l'art médical. Aujourd'hui, il y a la science biologique, l'aspect science qui se développe, mais en vue d'eux. C'est ça qui est intéressant, du reste, parce que c'est intéressant de voir comment on peut regarder le vivant de diverses façons. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intentionnalité? Parce qu'on le retrouve à tous les niveaux de la vie. Et on le retrouve au premier niveau de la vie végétative. Pour expliquer l'intentionnel, pour expliquer l'assimilation vitale. Alors, il ne faut pas uniquement qu'il y ait le mot. C'est trop facile. Il faut comprendre que derrière ce mot, on veut exprimer quelque chose qu'on expérimente et qui ne peut pas s'expliquer par un domaine purement physique. La vie a cette faculté inouïe de se renouveler tout le temps. Au monde physique, c'est pas du tout. Il y a une usure du monde physique. Et il y a un renouvellement constant du monde vital. Et la vie est enfouie dans le monde physique. C'est ce que nous constatons. Et il y a un renouvellement. Ce renouvellement s'explique par le point de l'assimilation. Le vivant assimile pour se renouveler. Il perd ses forces, il les renouvelle tout le temps. Il les renouvelle dans son organisation propre. La digestion du bois n'est pas celle de l'homme. Chaque vivant a son rythme de vie, au plan animal et au plan végétatif. Alors, on parle d'intentionnalité pour montrer toute la distance qui existe entre ce passage du physique au vital et montrer que l'aspect vital n'est pas la réalité dernière. Ça qui est impliqué dedans. Et puisque elle a une unité organique substantielle, le vivant possède en lui-même une autonomie propre comme vivant, qui se démarque du monde physique, qui ne se sépare pas du monde physique, mais qui assume le monde physique. C'est ça qui est très extraordinaire. L'invention de la vie. Le savant peut regarder les conditions de la vie. Pour que la vie apparaisse, il faut telle condition. Mais le savant ne sait pas, et le philosophe non plus, ce qu'est la vie. Il le constate et il pose un principe radical de vie pour l'homme, l'âme. Mais l'âme échappe complètement à la science biologique. Et c'est en ce sens-là que le biologiste peut saisir le chiffre vital d'un vivant. Mais ce n'est pas par ce chiffre vital qu'il atteint l'âme. Autrement, la philosophie, la science biologique obligerait le savant de poser l'âme. Les lois biologiques se réalisent à un niveau descriptif où l'on essaie de comprendre les relations qui existent entre antécédents et conséquents. Et ces relations montrent les conditions nécessaires pour que la vie apparaisse. L'ADN, pour que la vie apparaisse. Mais ça ne dit pas les principes propres de la vie. Alors je peux établir des lois, mais pas plus. Ces lois permettent de pouvoir agir sur le vivant, pouvoir l'aider, le soutenir, ou le mettre dans des états de déviation à sa vie propre. Mais ne permettent pas de comprendre. Bien, l'assimilation reste un fait que je constate, que j'expérimente, mais je ne sais pas ce que c'est. Le vivant assimile. Mais vous allez me dire, c'est comme l'être. Oui, un peu. L'être, mais l'être a ceci de particulier, c'est que l'être est toujours quelque chose qui transcende ma connaissance et ma vie. Tandis que la vie se saisit de l'intérieur et d'une manière immanente. Et parce que ça se saisit d'une façon immanente, j'ai toujours l'impression que je saisis tout. Et je montre l'abîme qui existe entre le monde physique et le monde vital en montrant l'intentionnalité vitale. degré de vie matériel. Il y a un passage d'un degré d'être matériel à un degré d'être vital. Et le degré d'être vital, présupposant le degré d'être physique, a quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau s'explique en premier lieu par l'assimilation intentionnelle, par l'immanence. Et cette immanence se donne à nous en premier lieu par la respiration et la nutrition. Le vivant se meut. Et se meut dans un organisme de plus en plus complexe. Et c'est pour ça que Teilhard donne comme principe de la vie la complexité. Vous voyez, ce n'est pas un principe philosophique. C'est un principe scientifique, si j'ose dire. C'est plutôt un axiome. Plus le vivant est vivant, plus il est complexe. La complexité. Aristote parlait de la perfection qui ne peut s'atteindre que dans la complexité. Au niveau scientifique, je peux parler uniquement de complexité. Et c'est vrai, ça, c'est un fait que plus je suis en face d'un vivant parfait, il est complexe. Et donc, il atteint sa perfection. Il atteint sa perfection et sa finalité que dans la complexité. Il ne peut pas l'atteindre autrement. Et le monde physique est relativement simple comparativement au monde vital de la vie. La nutrition s'achève dans ce que représente la croissance. Végétative implique une croissance. Du premier instant, la semence et la croissance, la nutrition et la croissance. La croissance, c'est une nutrition qui permet au vivant d'atteindre la taille normale de son espèce, de sa nature propre. Chaque vivant assimile à travers la quantité. Et comme c'est à travers la quantité et d'une manière organique, on peut comprendre comment l'assimilation vitale peut impliquer une croissance. Peut mesurer. La croissance est quantitative alors que l'assimilation est qualitative. Et les deux montrent le dépassement à l'égard du monde physique, qualitatif et quantitatif. Vous voyez comme c'est curieux de retrouver dans le monde de la vie ce qui est dans le monde physique, qualité, quantité. Et c'est dans ce sens-là que la vie est comme, j'allais dire, elle est comme enfouie dans le monde physique. Ça, dans une vision de sagesse, ça pose tous les problèmes. Comment le Créateur qui a communiqué la vie a-t-il voulu que la vie soit tellement enfouie dans le monde physique? Le monde physique est pour la vie. Philosophiquement, je dois le dire. C'est sûr que le monde physique n'a pas de finalité par lui-même. Il est toujours mu. Il n'a pas de repos. C'est la fameuse question du lieu. Au niveau physique. le monde physique est-il une transposition du monde vital dans le monde physique? Est-ce que le monde physique a vraiment un lieu? Pour Aristote, c'est les éléments qu'il montre. C'est le feu et la terre. C'est à ce niveau-là qu'on doit le comprendre. Mais c'est très délicat de montrer que dans le monde physique, il y a un lieu. C'est dans la mesure où les éléments demeurent dans la complexité. Alors le feu va toujours vers le haut et la terre vers le bas. Et ça ne dit pas grand-chose. Et c'est la seule chose qu'on peut dire. Et la vie dépasse ces deux extrêmes. Le vivant de vie végétative assimile dans son immanence et progresse dans son immanence. Et un troisième moment, c'est la procréation. Et le troisième moment de la procréation montre comment le vivant peut être source d'un autre vivant. Et ceci est inscrit au niveau de la vie végétative, à tel point qu'on peut dire que ce qui donne un sens à la vie végétative, c'est la procréation, c'est la génération. Pour l'homme, procréation, et pour les animaux, et ceux de vie purement végétative, le point de vue de la génération. C'est la génération qui finalise toute la vie végétative. Pourquoi? Parce que par la génération, la nature de telle espèce demeure au-delà de la corruptibilité. Il y a donc, par le vivant, quelque chose d'éternel dans le monde des vivants, dans le monde physique, je veux dire. Par la vie, il y a quelque chose d'éternel dans le monde physique. C'est le fait que le vivant engendre un vivant. Et grâce à la génération, il échappe à la corruptibilité, ou il dépasse la corruptibilité et continue de vivre et d'être dans tous ceux qui ont la même nature que lui. Là encore, on voit comment la vie a quelque chose d'irréductible au monde physique. Et je crois qu'il y a trois irréductibilités sur lesquelles ça vaudrait la peine de regarder avec beaucoup d'attention ces trois irréductibilités. L'irréductibilité de la génération, on échappe au temps. L'irréductibilité de la croissance, on échappe à l'extériorité. L'irréductibilité à l'assimilation, on entre dans un domaine qui est propre au vivant. Donc on entre dans un domaine d'assimilation intentionnelle. Ce domaine de l'intentionnalité prend toute sa force quand je regarde la génération. Parce que je vois comment une graine, une semence, contient virtuellement toute la croissance du vivant. Et ceci au-delà se développe de la même façon. Il a son rythme propre de vie. Et en raison de ce rythme propre de vie, on voit bien qu'il y a une autonomie nouvelle pour le vivant. Pour le vivant de vie végétative. Alors, la question qui se pose au plan philosophique, cette autonomie du vivant de vie végétative est-elle suffisamment nette pour réclamer de chaque vivant de vie végétative un principe d'être, donc une substance? Vous voyez bien la question, hein? C'est là où il faut la poser. Chaque vivant de vie végétative a son autonomie. Un arbre a son autonomie. La semence de n'importe quel arbre, cette semence donne au développement de cet être de vie végétative son rythme propre, son assimilation propre et sa procréation propre ou sa génération propre. Les trois opérations sont extrêmement liées puisque toutes les trois dépendent de l'aliment. Toutes les trois sont en dépendance de l'aliment mais ont une intentionnalité et une immanence toujours plus forte. La vie nutritive d'assimilation demeure en dépendance du milieu dans lequel elle va se développer. Puisque le vivant qui se nourrit dépend directement du milieu et ne peut pas s'évader de ce milieu. Quant à la croissance, c'est bien la même nutrition, mais cette même nutrition a un effet immanent, nouveau. Le vivant grandit. Et ce n'est pas l'aliment directement qui se fait grandir, indirectement. Vous n'allez pas manger des choux-fleurs pour grandir. On va vous vendre une nourriture spéciale pour grandir. Je sais très bien qu'aujourd'hui, on peut artificiellement arrêter une croissance qui, on ne sait pas à quel moment elle s'arrêterait. C'est vrai, quand un être humain commence à mesurer 2,5 m, 2,10 m, on s'inquiète. On s'inquiète. Quand ça va s'arrêter? Parce qu'il n'y a plus. On est hors série. C'est très gênant. Et c'est vrai que c'est très gênant. Souvent, c'est un peu maladif. Alors, on traite les gens actuellement pour qu'il y ait un arrêt. Mais voyez, comme c'est grave, on intervient dans la croissance. Ou quelqu'un qui ne grandit pas du tout, petit pygmée. Le pygmée, c'est sa race, c'est sa nature, c'est normal. Mais quand quelqu'un qui n'est pas pygmée ne grandit pas plus, c'est ennuyeux. Il y a un arrêt dans la croissance, vous voyez. La croissance représentant une victoire du vivant sur la quantité. Tandis que la nutrition, une victoire du vivant sur la qualité. Et la génération, une victoire du vivant sur la corruptibilité de la nature. votre quand je serai grand. Mais quand ça grandit trop, inquiétude. C'est très très curieux tout ça. Mais tout ça, au point de vue scientifique aujourd'hui, au point de vue biologique, on connaît beaucoup mieux tous les éléments qui permettent la croissance, qui permettent l'arrêt de la croissance et tout ça. Mais on ne sait pas plus qu'Aristote sur la nutrition, la croissance et la génération au plan philosophique. La science étudie de façon étonnante et admirable ce que représentent les éléments qui permettent la nutrition, la croissance, la procréation. On étudie ça de très près et c'est toujours du côté de la quantité et du côté de la matière, puisque c'est le mesurable. Et on divise pour aller plus loin dans l'analyse. Diviser, c'est l'analyse. Mais qu'est-ce que c'est que le vivant de vie végétative? Il faut se poser la question. C'est ce degré fondamental de la vie que je constate en moi. Si l'homme est bien la synthèse des degrés de vie, je vois comment ma vie végétative à la fois me met dans une dépendance complète à l'égard du monde physique. Je suis radicalement dépendant du monde physique. Du monde physique, attention, du monde physique habitable grâce à l'atmosphère. Parce que je ne suis pas radicalement dépendant de la Lune. Où il n'y a pas d'atmosphère. Un lieu sans atmosphère. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vie. Je suis radicalement dépendant du soleil. L'homme engendre l'homme avec le soleil. Et on peut dire aussi avec la lune. Ça dépend qui, tu vois. Mais je suis dépendant de tout ce monde physique. Mais cette dépendance est toujours de l'ordre de la disposition. C'est pour ça que je ne peux pas me servir du monde physique pour pouvoir dire cet individu est né à tel moment. Nécessairement, sa vie va se développer comme ça. Ça, on ne peut pas. On peut seulement dire, étant donné que vous êtes né à telle époque, sous tel soleil, à telle heure, vous êtes plus sensible à tel élément. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible, mais pas plus. Puisque l'homme domine l'univers. Et donc, dans le développement de chacun d'entre nous, il y a notre liberté. Et notre liberté a agi sur notre développement. Nous avons été plus ou moins paresseux. On a fait plus ou moins de gymnastique. Donc, alors, on a développé plus ou moins son thorax. C'est sûr ça, c'est évident. On a étudié plus ou moins le point de vue intellectuel, la ville et la campagne. Oui, c'est quand même très 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 curieux tout ça. Et ça me fait comprendre cette dépendance radicale de ma vie végétative, qui est la plus parfaite. Les vies végétatives que je peux constater. Donc la plus fragile. Et ce qui fait comprendre pourquoi, quand je fais des expériences de nouveaux produits pharmaceutiques, je les fais sur des petites bêtes. Le corps. une vie végétative, purement végétative. J'aime mieux dire ça que ce qu'on dit autre part. On dit un légume, vous comprenez pas. C'est un légume humain. Donc c'est pas un légume. Dites qu'il n'y a plus que la vie végétative qui semble vivre. Où il y aura toujours la vie animale du toucher. Parce que quand il n'y a plus de toucher, il n'y a plus de vie. Ça, on va voir ça avec la vie animale. Mais notre vie végétative, c'est quelque chose d'abstrait. Il y a une abstraction terrible que je fais quand je parle de ma vie végétative. Parce que ma vie végétative est un degré de vie d'un tout. Ma vie végétative, c'est le sous-sol. Alors vous voyez tout ce qu'on met dans le sous-sol, toutes les réserves, la chaufferie. Ma vie végétative, c'est mon sous-sol. Tandis que le rez-de-chaussée, c'est ma vie sensible, c'est l'accueil. Ma vie végétative ne me rend pas du tout accueillant. Oh là là! On le dit du reste. Ventre affamé n'a pas d'oreille. Hein, voyez l'accueil. Ma vie végétative est une vie farouche. D'égocentrisme. Le vivant, parce qu'il assimile à cette puissance extraordinaire de tout ramener à lui. Et ceci, c'est son fondement. C'est mon pain. Et on n'aime pas de voir que l'autre va venir vous prendre ça quand vous l'avez pris. C'est une indélicatesse forcenée. Et à ce moment-là, vous êtes capable de réagir comme un vivant de vie végétative. Et vous savez, entre la vie végétative, les êtres luttent. L'espace vital, c'est la lutte la plus farouche. Alors, comprenons qu'au niveau de la vie végétative, la procréation, je vous l'ai dit tout à l'heure, est un sommet. Le vivant de vie végétative est ordonné à la procréation, à la génération. Le vivant de vie végétative, en moi, ma vie végétative est ordonnée à la procréation. Et cet ordre est un ordre naturel. Il faut bien le saisir, ça. C'est très très important. Même si je peux la dépasser grâce à mon esprit, je ne peux pas supprimer le déterminisme de la vie végétative. La vie végétative est plus déterminée que ma vie sensible et que ma vie spirituelle. Il y a des impératifs de vie végétative qui sont très forts vis-à-vis du sommeil, vis-à-vis de la nourriture, vis-à-vis de la boisson. Des impératifs très très forts que, sur lesquels vous n'avez pas de pouvoir. Voyez, et ceci enracine la vie végétative dans la vie physique. C'est très intéressant de comprendre la politique de la vie végétative. Je me souviens d'une conférence que j'avais écoutée comme ça. C'était palpitant. C'était d'un biologiste, un savant biologiste, qui montrait la politique de la vie végétative. Je voulais garder sa conférence pour lire ça aux noviciats, aux novices. Très intéressant. Enfin, comment? Parce que enfin, ça reste, hein. Même si on la surveille de près et qu'on essaie de la dépasser, il y a les sevrages. Et les sevrages, au niveau de la vie végétative, sont farouches. Le sevrage, c'est le passage d'un milieu à un autre milieu. du milieu maternel à la naissance. Vous passez de l'alimentation maternelle à l'alimentation de tous, sevrage. Ça joue un rôle très important. Le dépassement qui peut se faire, ce qui montre le côté impératif de la vie végétative. Je crois qu'il faut le comprendre, ça. On est une usine très complexe, très très complexe, avec des éléments extrêmement importants. Et on doit aimer son corps. On doit l'aimer. Ça nous est donné, c'est notre avoir. Et on doit voir toute la complexité de cette vie végétative. Et on ne peut pas le brutaliser inutilement. On doit l'assumer. C'est très différent. C'est-à-dire qu'on doit coordonner